Bye bye.
Boulevard 102. Collé sur ce qui se passe ici et ailleurs.
The White House confirms the United States is now set to impose a 104% tariff against Chinese goods.
Les enjeux qui te concernent.
Taxe au chat, c'est la bullshit.
On enlève ça?
On en parle plus tard.
Le but gagnant de la veille.
Cross-ice, Ovechkin fires! Score! Alex Ovechkin is the greatest goal scorer in the history of the NHL.
La nouveauté de Green Day. Le fou rire qui fait ta journée.
Ça déboule les textos.
Boulevard 102. Pour du monde de Québec, par du monde de Québec. Une propriété Leclerc Communication.
Salut, bonsoir Québec. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102. En espérant que tu aies passé une belle journée. Ça a été quoi? Genre de 19 degrés aujourd'hui. C'est le maximum qu'on a atteint. Un minimum de 13 degrés pour ce qui est de ce soir. Ce sera des averses aussi en soirée à 40% selon Environnement Canada. Pour ce qui est de demain, mercredi 7 mai, ce sera généralement nuageux avec 40% de probabilité d'averses en matinée. Peut-être un peu en après-midi, même risque d'orage, maximum de 17 pour ce qui est de demain. Jeudi, de la pluie, maximum de 8. Vendredi, ce sera nuageux avec un maximum de 9. Et pour ce qui est du week-end, la bonne nouvelle, c'est plein soleil samedi, dimanche, donc maximum de 19 pour samedi et un maximum de 18 pour ce qui est de dimanche, mais ce sera plein soleil. Donc ce sera une belle journée de moto pour ceux qui en ont. Et pour les autres, ben, on ouvre les fenêtres. Ou on ouvre le toit ouvrant, tiens, vous allez en profiter. Ce soir, mon invité, c'est Steve Waterhouse, c'est un spécialiste en cybersécurité. C'est un gars qui a aussi été sous-ministre au gouvernement du Québec. Il va réagir à l'article de Nicolas Lachance du Journal de Québec, où on apprend que sous la gouverne d'Éric Kerr, il y avait un cerveau informatique qui travaillait, et ce gars-là était en réalité un fraudeur. C'est le gars qui travaillait sur la fameuse identité numérique. Donc, ça a coûté plusieurs millions de dollars au gouvernement du Québec quand on a découvert que ce gars-là était en réalité un fraudeur. D'ailleurs, il purge toujours sa sentence actuellement aux États-Unis. Son nom, c'est Yann Ouellet. Donc, Steve Waterhouse va réagir à ça dans les prochaines secondes. Le podcast de Marceau le soir, ça commence à l'instant. Bonne écoute.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir.
Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité, est avec nous ce soir. Salut mon ami!
Salut mon ami, ça va bien Yannick?
Oui, merci de me parler entre tes conférences que tu fais constamment. T'en fais à grandeur du Québec, c'est pas plate ta job, t'es tout le temps en train de te promener.
Ouais, mais c'est ce qu'on appelle répandre la bonne nouvelle. Puis le mois dernier, j'étais en Europe puis en Israël, puis pour la même raison, aller échantillonner qu'est-ce qui se passe à l'autre bout de la planète,
ouais.
Puis arriver en constat à la fin... et de se rendre compte qu'on est tous, on baigne tous dans la même situation, c'est-à-dire on est tous en manque de ressources humaines, matérielles, techniques. Il y a un manque de vision pour le leadership qui est supposé nous amener un petit peu plus loin. Et après ça, ben, la technologie pour tout le monde avance à des pas de géant que tout le monde à ce moment-là a peine à rattraper. Et c'est là qu'en commun, ben, on se dit tous, ouais, il faudrait peut-être juste penser un petit peu plus loin parce qu'on ne rattrapera jamais le retard des 20 dernières années, puis ça, c'est une évidence même. Là. Fait ouais. Que oui, on est tous à la même place.
En Israël, est-ce qu'ils ont les mêmes problèmes informatiques? Pour ce qui est du gouvernement, est-ce qu'ils ont les mêmes problèmes informatiques que nous ou c'est des problèmes qui sont complètement différents, peut-être en raison de la guerre?
Ben, premièrement, la façon de penser là-bas, Yannick, c'est ce que j'aime bien, mais c'est pour ça que je m'entends bien que le monde là-bas, quand je vais la 16e, la 2e visite, j'allais les voir, c'est une mentalité opérationnelle. Parce que, déjà là, t'as le service obligatoire militaire que pas mal tout le monde se rallie de cette plateforme-là, autrement dit 3 ans de service commun, mais la majorité font peut-être 10, 15, 20 ans. Et après ça, ben, le domaine de la cybersécurité en Israël a évolué grandement et sont de bonne réputation les compagnies en ce domaine parce que c'est toute la majorité des gens qui ont passé à travers l'unité de guerre électronique qui est l'unité 8200 israélienne, okay. Et qui, après ça, s'en vont dans le privé. Et là, tout le monde se connaît de leur service militaire, l'applique dans le privé. Et par la menace constante et omniprésente que fait face l'Israël, il ne faut pas oublier, c'est un petit pays de 10 millions d'habitants, fait que c'est là que je dis que tout le monde arrive à se connaître assez facilement. Ben c'est là, ils n'ont pas tant niaisé avec la POC, comme on dit. C'est faut que tu mettes en place une solution. La solution, il faut qu'elle fasse qu'est-ce qui est promis parce qu'il y a des vies qui en dépendent. Alors, si C'est le contraire. Y a pas, personne ne va mourir si jamais la solution ne fonctionne pas. Alors que là-bas, en Israël, ben, si tu ne l'implantes pas comme il faut et tu ne fais pas tes tests comme du monde, ben, tu risques d'avoir des pertes d'électrique, tu risques d'avoir des gens qui n'ont plus d'eau, tu risques d'avoir justement un paquet de dégradation de la société. Fait que c'est dans ce sens-là que c'est l'environnement qui fait toute la différence, alors qu'ici, nous autres, il ne manque pas d'électricité pendant 24 heures, c'est pas si pire, on va retrouver ça éventuellement.
Puis, est-ce qu'ils ont des dépassements de coûts comme nous, on peut avoir au Québec? Ou puisque, comme tu l'as dit, c'était des gens qui avaient fait l'armée, qui avaient, tu sais, au niveau des opérations, ils étaient très, très, très alertes. Mais y a-t-il des dépassements de coûts qui sont aussi magistraux?
Je peux te dire, il y en a eu des dépassements de coûts, comme n'importe quelle organisation, n'importe quelle gouvernance sur la planète. C'est juste que le besoin justifie les moyens. Donc, dans un contexte que, hey, on a besoin de cet élément-là pour la protection de nos infrastructures parce que le contexte l'exige, ben, dans ce temps-là, tu te rappelles la phrase « money is no object », on en s'en fait peu avec le budget, fais marcher ça, on réglera la facture après. Tu sais, c'est un peu cette mentalité-là de résultat. Il faut que le résultat soit là au rendez-vous, puis ils vont être capables de défendre le montant, peu importe s'il était excédentaire ou non. Fait que ça, c'est la grande différence. Même affaire ici, je te dirais, Yannick, dans bien des cas, des fois ici, c'est trop exagéré, justement, mais il peut arriver des cas, comme je l'ai vécu à la Défense, tu sais, pour accomplir la mission, met tout en place, déploie tous les efforts nécessaires pour que ça soit fonctionnel et qu'on n'ait pas de trouble. Tu sais, c'est dans cette optique-là que ce soit à l'au bout du monde ou ici, dans mon contexte de défense, ça s'appliquait de la même façon. Alors, le gouvernement là-bas, puisqu'il est en constante mentalité de défense, que ce soit électronique ou physique, ben, c'est dans cette optique-là que c'est peu regardé. Alors qu'ici, en contexte de paix, on va le dire de même, là, tout est scruté à la loupe parce qu'il y a moyen de le faire autrement, parce qu'il n'y a pas la presse, il n'y a pas d'urgence de l'accomplir versus qu'est-ce qui se fait ailleurs.
Je regardais ce matin un article sous la plume de Nicolas Lachance et on parlait d'un individu qui travaillait au gouvernement sous la gouverne, puis tu sauras me faire les nuances par la suite, là, mais sous la gouverne d'Éric Kerr. Il travaillait sur l'identité numérique québécoise, puis c'est un gars qui est actuellement incarcéré aux États-Unis. Ce qui est particulier dans l'article de Nicolas Lachance, puis c'est la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, Steve Waterhouse, c'est que, le gars, c'est un informaticien, il s'appelle Yann Ouellet, et il semblait être le seul responsable de la recette de ce nouveau système qu'on tentait de mettre en place. Et à un moment donné, il a dû quitter la place. Il est aux États-Unis. Aux États-Unis, il est en prison, donc il a dû quitter. Et comme il était le seul responsable, on a tenté de trouver des solutions pour tenter de récupérer le travail de ce criminel-là. Et finalement, on a dû abandonner parce que c'était impossible. Est-ce que ça arrive souvent qu'il y a juste une personne qui a la recette au gouvernement?
Premièrement, donc, il faut faire en sorte de dire que, un, c'est un consultant externe qui est venu donc renforcer et qui est venu donner un coup de main au projet d'identité numérique. Deuxièmement, je ne le connais nullement. Cet individu-là, il travaillait dans un autre sous-ministériat que le mien. Et après coup, pour revenir à ta question initiale, il se peut que tu aies cherché quelqu'un qui a une connaissance de pointe. Mais si tu es bon gestionnaire puis tu anticipes que ce gars-là, à un moment donné, il peut tomber malade, tu anticipes aussi, il peut mourir, tu sais, il traverse la rue, il se fait frapper, ça, c'est des scénarios, il faut que tu imagines. Ben, tu peux pas laisser ça dans une tête. Là. Puis le but là-dedans aussi de travailler en collégialité, tu répands ta connaissance puis tu la partages avec les autres. Fait que de dire que c'est la seule personne qui avait tout en main puis qui avait la seule solution, j'ai de la misère à le croire, ce scénario.
Mais toi, tu as été sous-ministre, là, jamais tu aurais accepté ça, une affaire comme ça, sous ta gouverne.
Encore là, pour faire une distinction aussi, ce gars-là, là, il ne travaillait pas direct pour le ministère. Ça, je vais enlever ça tout de suite de l'équation. Le ministère, lui, gère son cabinet avec ses attachés politiques, puis son peut-être 7-8, là, même peut-être 10 au max. Là. Après ça, il vient interfacer avec la fonction publique. Là, le sous-ministre gère des sous-ministériats. Il y a en dessous des sous-ministériats, tu as des exécutants. Et ce gars-là travaillait pour le sous-ministériat de la transformation numérique. Alors, au-dessus de lui, il y avait sûrement un directeur principal ou un directeur général, que là, au-dessus de lui, il y a le sous-ministre adjoint, que là, au-dessus de lui, il y a le sous-ministre, que là, le sous-ministre parle au ministre. Fait qu'on s'entend-tu qu'il y a quatre paliers là, qui séparent les deux? Alors, de cette manière-là, Le gars, il a sûrement été identifié qu'après un appel d'offres, ou du moins ils ont été sondés, qui pouvait amener cette expérience, ou je ne sais pas, parce qu'on ne le précise pas dans l'article. Puis c'est difficile à savoir, quand tu n'es pas avec les acteurs principaux, quel a été le déterminant pour inviter cette personne-là, ou du moins lancer l'appel d'offres, de dire « Hey, on cherche une personne avec ces critères-là, ces qualités-là, parce que c'est ça qu'il nous faut comme numéro un dans la transformation numérique, plutôt dans l'identité numérique dans ce projet-là. » Fait que ça, on ne l'a pas, puis je ne l'ai jamais su pourquoi ce gars-là aurait été sélectionné. Tu sais, c'est pas évident dans la description. Mais ceci dit, moi, j'ai été en chercher des gens que je savais très bien que voici le genre de profil de personne que j'ai de besoin. Puis, c'est des expertises de pointe qui étaient pour accomplir nos travaux. Et après ça, lorsque je parlais avec mes directeurs en place, qui géraient ces personnes-là, ben, je leur donnais, ben, voici mes objectifs, arrangez-vous que ça arrive, puis on a tant de temps pour le faire. Et là, ça partait. Fait, comment ça s'est passé avec cet individu-là? Je ne sais vraiment pas.
Parce que là, c'est le ministère de la cybersécurité, Steve, c'est directement dans ta palette, là. Je me pose certaines questions des fois, parce que moi, j'ai jamais été à l'intérieur du gouvernement. Toi, tu y as été. Il n'y a pas cette expertise-là chez nos fonctionnaires qui travaillent en sécurité informatique depuis des années et des années. Pourquoi il faut constamment aller rechercher des ressources à l'extérieur qui font en sorte que ça peut nous créer certaines problématiques? Quand tu restes avec ton monde que tu connais, tu sais qu'ils sont là pour bâtir leur carrière au gouvernement pendant des années et des années, tu peux leur faire confiance. Qu'est-ce qui fait qu'on va tout le temps rechercher des ressources externes?
Bien, du jour au lendemain, tu sais, on va défendre ce qui est défendable. L'expertise qui a été développée à travers les années, je veux dire, ça en est d'un profil un peu plus généraliste, mettons ça comme terme, pour l'entretien, les opérations au quotidien. Mais là, du jour au lendemain, Yannick, toi et moi, on se décide de faire un projet, là. Ben, on va faire un entreposage, un stockage de données au laser, parce que c'est ça la technologie de demain, là, le stockage par la lumière, les photons, puis tout ça. Tu vois-tu l'année? Tu sais, c'est spécialisé, là. Bon, bien, qui au gouvernement a déjà travaillé avec ça? Les mains restent toutes baissées, parce que c'est pas vrai que quelqu'un a déjà vu ça. Ah, moi, j'ai lu un article, parfait. Mais là, après ça, tu t'en vas à l'externe, parce qu'à l'externe, c'est eux qui travaillent puis qui le mettent en place, si ce n'est que les chaires de recherche universitaires qui continuent à le développer. Puis là, tout d'un coup, tu en as un. Moi, c'est ma business, c'est d'intégrer ça, parce que voici, je l'ai déjà fait en preuve de concept, puis je suis capable de produire le produit final qui va être ce que vous demandez. Bang, c'est là, tu l'as, ta connaissance pointue, tu as ton expert en la matière. Après ça, tu l'amènes à l'intérieur du gouvernement, et là, c'est là le jeu qui devrait se jouer, que tu le mets en contribution avec les autres parce que tu désignes les équipes de travail, parce que la personne de l'extérieur ne connaît pas comment ça va se passer à l'intérieur, et il faut qu'à partir de ce moment-là, bien, que tu aies une fusion entre ton consultant externe et tes équipes internes, qu'il y ait cette osmose de transfert de connaissances, et après ça, va se développer cette connaissance interne pour qu'après coup, une fois que tu ne gardes pas le... Ben, on l'a vu dans le passé, là, il y en a qui restent là 20 ans comme consultant temporaire, mais qu'éventuellement, ben, ce consultant soit laissé aller puis que les fonctionnaires en place, eux autres, puissent appliquer cette expertise acquise, cette expérience de travail et deviennent les experts en la matière. C'est de même que ça devrait se passer, Yannick. Mais il y en a que c'est plus long à apprendre. Des fois, il y en a qui sont vraiment paresseux. Excuse-moi de dire ça, mais c'est ce que j'ai constaté. Et là, ben, à la place, ils décident de garder le consultant pour un peu plus longtemps que le mandat qui était prévu.
On parlait du ministère de la cybersécurité tantôt avec les auditeurs. Puis il y a des auditeurs qui m'ont écrit qui travaillaient supposément dans ce fameux ministère-là, qui mentionnaient qu'il y avait des décisions qui se prenaient qui étaient comme un peu invraisemblables. On parlait de redondance. Il n'y avait pas de redondance dans certains serveurs, ce qui faisait en sorte que les deux disques durs, dont un qui était miroir, là, étaient dans le même serveur. Puis à un moment donné, ils ont eu une problématique avec ce serveur-là, puis tout a lâché. C'est assez surprenant de voir ça, Steve, que le gouvernement ne soit pas mieux, pardonne-moi l'expression française, mais mieux à mancher que ça. Je veux dire, même dans une entreprise, dans une binerie, on pense à mettre un disque dur miroir qui est à l'extérieur. Parfois, il est dans une autre bâtisse ou tout simplement dans le cloud. Mais qu'est-ce qui fait que nous, on est comme différents des autres, là, puis qu'on garde tout ça dans le même serveur, puis quand ça pète, ben, on est juste dans le trouble?
Ben, ta question, il manque beaucoup de variables pour être capable de qualifier le pourquoi que c'était monté comme ça. Je ne sais pas de qui ça vient, ton information, mais autant dans la grande entreprise que dans la PME, que dans le gouvernement, j'en ai vu des systèmes de montée de même. Je veux dire, sur le même serveur, tu mets deux drives, un par-dessus l'autre, en miroir, Et là, tu as cette redondance envers les deux composantes, mais ce ne sont pas pour envers le système au complet. Ça, je t'entends très bien. Et oui, dans les meilleures pratiques, tu devrais avoir quelque chose qui est physiquement séparé. Du moins, il y a des stratégies de backup que j'ai vues, que les backups se faisaient puis ça restait dans la même pièce. Tu sais, c'est contre-productif. Là. Fait que donc, tu sais, en sachant pas, c'est-à-dire le pourquoi qu'ils l'ont monté comme ça. J'en ai monté, moi, dans les années 2000, des serveurs exactement comme tu le décris. Ils étaient dans la même pièce, dans la même salle de serveur. Puis après ça, on faisait une réplication au complet du serveur.
Exact.
Et donc, le système d'exploitation, lui, était en deux disques miroirs. Donc, si jamais le premier disque, il lâche, mais le deuxième est embarqué, puis il n'y avait pas de perte de productivité. Mais c'était pas le disque dur, parce que dans ces années-là, je peux te dire, nommer des compagnies que c'était pas trop fiable. Fait que oui, tu avais intérêt à en mettre un deuxième, puis qu'après ça, tu en avais deux, trois sur la tablette en cas que ça brise. T'sais. Fait que donc, c'est pas que le gouvernement n'est pas avant-gardiste dans son approche. Les gens que j'ai connus, qui font l'exemple la gestion des serveurs, ils le sont compétents en la matière. Puis ils vont monter ça selon la stratégie qui a été dictée. Fait que est-ce qu'au moment où ça a été monté, v'là 10 ans, c'était la bonne façon de faire? Peut-être que oui. Est-ce qu'il y a des meilleures façons de le faire aujourd'hui? La réponse est certainement oui. Alors, par contre, je peux dire que des fois, il y a un manque d'anticipation que dans le futur, ça va changer. Et dans ce futur-là, il faut se réadapter, se l'approprier, les nouvelles façons de faire. Ça, je crois, je peux te le dire, ça manque à bien des égards. Et pas juste on parle du MCN ici, mais c'est pas juste lui là, qui est en cause. C'est un paquet d'autres organismes, là, parce qu'il ne faut pas oublier une affaire. Récemment, il y a eu ce rapatriement de tous les centres de traitement de l'information, les CTI, qui étaient dans un plan global de tout rationaliser et ramener ça en quelques-uns. Fait que les vieilles technologies et les vieilles façons de faire qui étaient faites ailleurs, là, ben, ils en ont hérité, veut pas. Là. Fait que sont-ils pris avec le problème d'un autre, que là, c'est leur responsabilité? Ah, là, la donne, elle change, là. Parce que c'est pas eux autres qui ont monté ça avec les normes techniques qu'ils savaient, alors que le gestionnaire de réseau dans l'autre ministère, lui, il l'a fait comme bon, il le semble, parce qu'il n'a pas eu de formation appropriée. Puis les vidéos sur YouTube n'existaient pas quand il l'a monté, tu sais. Fait que c'est là qu'il faut faire attention d'où ça provient, l'information, puis il faut avoir le contexte au complet avant de porter jugement.
Est-ce que les... Tu connais un peu l'armée canadienne, hein, Steve? Je pense que tu as fait partie de l'armée canadienne pendant plusieurs années.
23 ans.
Est-ce qu'il y a des civils qui travaillent à la cybersécurité dans l'armée canadienne?
Ben oui, j'en étais un de ceux-là.
Toi, tu étais un civil.
Oui, j'ai été militaire, puis après ça, j'ai été civil 9 ans en temps pour la fonction publique fédérale. Puis ça, c'est quand j'ai rénové le collège militaire à Saint-Jean. Et oui, tu as besoin d'avoir des civils qui font ce travail-là pour une question de stabilité et de longévité. Parce que le militaire va être appelé à être à déployer. Parce que j'en ai eu, moi, quand j'étais en charge de la base de Montréal, que j'en ai eu deux, moi, qu'il a fallu que je laisse aller pendant 6 mois. Il fallait qu'ils se déploient en Bosnie-Herzégovine dans le cadre d'une mission de l'OTAN. Et donc, OK, du jour au lendemain, j'apprends, il part le mois prochain, puis il part pour 6 mois. Comment tu t'organises? Bon, ben, on va aller chercher quelqu'un, tu sais, faut qu'on continue nos opérations. Il n'est pas question de dire qu'on réduit, puis on reste une petite équipe. Fait que ça fait partie de la vie normale. Fait que c'est courant. Tu vas avoir des militaires qui vont être là, mais pour des portions plus opérationnelles. Si on prend, par exemple, surtout dans les quartiers généraux, tu as des fonctions d'opération, de soutien aux opérations, et tu as peut-être intérêt d'avoir un militaire qui fait ce job-là qu'un civil, normalement, ferait juste pour du travail administratif. Mais j'en connais des collègues là, qui sont dans des milieux opérationnels, qui sont là, ça fait 15-20 ans, puis au même titre qu'un militaire le ferait, c'est juste qu'ils sont habillés différemment. Là.
Mais ça semble être une grosse bibitte à gérer la cybersécurité.
Ah, tu le dis, toi! Ouais. C'est... Si tu parles juste de cybersécurité, là, ça part de très loin. Et ce qui est moi, je te dirais, Yannick, là, peu importe le domaine, là, militaire, civil, peu importe la couleur de qui que ce soit, la plus grosse difficulté, c'est la compréhension de qu'est-ce que c'est cette ressource-là puis qu'est-ce que ça fait. La finance, c'est assez simple. Tu ne t'occupes pas de la finance, tu n'es pas payé. Ouais, OK, c'est important, on va s'occuper de la finance qu'on soit payé, tu sais, c'est simple. La cybersécurité, là, c'est plus subtil parce que tu dois, à ce moment-là, convaincre les gens que si tu ne l'entretiens pas bien, ben ton ordinateur qui fait la paye qu'il va te payer, il ne marchera pas. Mais pourquoi il ne marche pas? Il est là, je le vois, la lumière allume. Tu sais. C'est là que faut que tu réexpliques un peu avec beaucoup de dessins à l'appui pour faire comprendre aux gens. Non, attends un peu, là. C'est comme l'électricité. Tu assumes que la prise est alimentée, mais si la journée qu'elle ne l'est pas alimentée, là, on avance-tu bien ben vite ou qu'est-ce que ça prend, tu sais? Fait que c'est là qu'il faut que ça parte. Là. Puis là, après ça, quand les gens voient qu'il y a des empêchements, mais là, ils disent « Ah, la cybersécurité, c'est toujours pour nous bloquer, mettre des bâtons dans les roues. » Ben, c'est-tu parce que ça prévient qu'il y a un mauvais usage de l'information qui se trouve être dans cette boîte-là, ou bien c'est vraiment pour te nuire à chaque jour? Fait que, tu sais, il y a une éducation qui ne s'est pas faite, Yannick, là, à travers les 20 dernières années. Je ramène toujours à 20 ans, parce que c'est toujours au début des années 2000, ça a commencé l'explosion de cette transformation numérique sociétale, autrement dit, qui nous a amené à aujourd'hui à plus avoir de guichets puis de comptoirs à la banque pour avoir juste ça, un portail web, et qu'il y a l'éducation qui n'a pas suivi. Fait que les gens se sont fait mettre ça dans le visage, se sont fait dire, tiens, du jour au lendemain, c'est de même, ça marche. Bonne chance. Fait que c'est là que c'était... encore aujourd'hui, on rame et on essaye d'apprendre comment ça fonctionne alors qu'on ne devrait pas. Quand on se promène, avec l'exemple que je tenais en entrée d'émission, lorsqu'on va se promener dans le monde, bien, en Europe, ils ont une meilleure littératie numérique qu'on peut avoir ici. Parce que les gens, ils ont vu ça de plus longtemps que nous et ils aiment les choses bien faites. Puis de cette façon-là, bien, ils ont intégré le curriculum d'apprentissage un peu partout. Contrairement ici, qu'on ne peut même pas intégrer ça au primaire ni au secondaire.
Est-ce que vous étiez capable de pourchasser les gens qui tentaient d'infiltrer vos réseaux quand vous étiez dans l'armée? Est-ce que vous étiez capable de retrouver les individus? Puis si, exemple, c'était une attaque qui provenait de la Russie, est-ce que vous étiez capable de communiquer avec le gouvernement russe pour retrouver ces individus-là puis peut-être les rapatrier ici ou bien les faire arrêter là-bas?
Bien, pour être assez pirate, oui et non. C'est toujours une question... Là, les fois que j'ai été capable, on était au début des années 2000, donc il y avait moins de moyens d'obfuscation pour se cacher. Alors, c'était plus facile, en ligne droite, je te dirais, de retracer d'où l'ordinateur contaminé y provenait. Fait qu'il y en a un moment donné, j'ai fait en 2001, que j'ai retracé ça, puis il venait de Winnipeg, en région de Winnipeg. Puis là, le retraçage était facile parce qu'encore là, c'était sur les réseaux de la défense, c'était pas dans l'Internet pur. Et à ce moment-là, j'ai pu prendre contact avec les personnes appropriées pour dire, regarde, c'est chez vous, là, telle machine est à telle place. Il est infecté, puis il n'arrête pas de venir essayer de m'infecter chez nous. T'sais. Ça s'est fait comme ça. Plus tard, au fur et à mesure que ça a évolué, l'équipe de défense permanente à Ottawa, eux autres, c'est eux autres qui gardent, qui sont les chiens de garde, je te dirais, vers l'extérieur. Et ils sont en mesure de faire un certain recouvrement, autrement dit, d'aller retracer vers depuis qui ça peut provenir. Mais c'est là qu'il faut faire attention. L'attribution est très difficile parce que tu peux passer par toutes sortes de moyens, projeter des fausses adresses et après ça, faire passer ça sur le dos d'un de l'autre, même utiliser le code pour attaquer, autrement dit, les virus informatiques. Tu peux prendre un code qui a été écrit par un Nord-Coréen, aller te brancher sur un serveur temporaire en Russie que tu as loué, puis là, après ça, tu ressors par la Chine, puis tu fais ton attaque. T'es où, toi, quand t'as fait ça? Tu pourrais être ici, au Canada. Non, sérieux. Fait que c'est là que c'est pas chose évidente de dire à tous les fois, « Ah, on a repéré l'adresse. » Quand t'es arrivé l'incident aux États-Unis avec le logiciel SolarWinds, le logiciel Orion, qui est pour la surveillance de réseau, bien, lui, il s'est fait ramasser. Et de cette manière-là, les adresses IP qui étaient impliquées, bien, ils provenaient pas de Russie. Ce sont des Russes qui ont utilisé des adresses IP qui étaient ici, en Amérique du Nord, et donc qui ont passé en dessous du radar. Fait que c'est là qu'il faut vraiment faire attention, puis avant de dire que c'est des éléments comme ça qui crochent versus quelque chose que, ah, bien, c'est évident, ça vient du Canada, c'est pas un problème. Non, attends un peu, là. Il faut filtrer au-delà juste de l'adresse IP parce qu'il y a moyen de se masquer derrière une fausse adresse, tout simplement. Puis j'en faisais chez un client ce matin le repérage qu'il y a quelques appareils qui, tout d'un coup, ça fait une semaine que j'observe qu'ils vont inutilement tenter de se connecter chez Pornhub puis d'autres sites à connotation sexuelle de même, alors que je le sais que ce ne sont pas des gens qui font de la consommation de porn durant le jour. Donc, un logiciel, en quelque part, que je ne sais pas pourquoi, probablement qui est arrivé avec la publicité, qui tente systématiquement d'aller juste faire du clic chez Pornhub ou toutes sortes d'affaires de même. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement des gros méchants pirates qui essayent de faire des choses des fois, mais des éléments commerciaux qui essayent de se faire du clic parce que c'est ça qui rapporte là, lorsqu'ils veulent avoir un certain rendement de ce qui est présenté.
Ouais, la bonne nouvelle, c'est que tu vas avoir de la job jusqu'à la fin de tes jours. Tu ne pourras pas prendre ta retraite.
Ben, je le veux. Yannick, je le veux prendre ma retraite. Tu le sais, là, si je plonge pas deux fois par semaine, tu sais, mon teint pâli, je suis malade.
Oui, mais, c'est
ça. Maintenant, il faut que ça arrête.
T'es un poisson d'eau douce. Quand il y a des brèches informatiques dans la sécurité et il y a de l'information qui est volée, on envoie ça directement sur le dark web. Les policiers mentionnent « Ah, ben là, c'est rendu sur le dark web. » Y a-t-il une façon de faire pour les gens qui sont dans ton métier les hackers d'aller récupérer ces données-là et de les retirer à tout jamais sur le dark web? Prenons l'exemple de Desjardins. Bon, on nous a dit qu'il y avait une liste de clients qui étaient rendus sur le dark web. C'est impossible d'arriver avec une balayeuse dans le dark web puis aspirer toute l'information qu'on veut pas laisser puis après ça repartir comme si de rien n'était. C'est impossible de le faire?
Parce que, un peu comme tu disais tout à l'heure avec les disques durs miroirs, n'est-ce pas? Ben, tu peux avoir sur le dark web des sites web de pas fin qui s'auto-répliquent parce que si la police vient faire une saisie d'un site, l'information est déjà disponible sur l'autre site. Et comme ça se réplique un peu partout. Donc, il y a cette pérennité que l'information, de manière soit la retrouver, même si ça fait 10 ans qu'elle a été commise au dark web, il y a toujours quelqu'un quelque part qui a fait un backup de quelque chose. Meilleur exemple, quand tu dis que hey, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un vieux film puis je peux juste le trouver sur les torrents, ben, les catalogues de torrents, il y en a des vieilles affaires qui traînent encore là, qui sont listées. Des fois, elles ne sont pas disponibles parce que la machine qui la détient, elle n'est pas en fonction. Mais en quelque part, il y a quelqu'un qui l'a. Là. Fait que c'est un peu ça, les données dans le dark web. Même si tu l'enlèves d'un seul site, elle a déjà été répliquée ailleurs. Et c'est là que tu parlais tantôt des policiers. Ils s'en viennent de mieux en mieux équipés et expérimentés pour justement aller chercher ces milliers, millions de vidéos, de photos, de pédopornographie. Et malheureusement, c'est vraiment la mythologie de l'hydre. Il en coupe deux, trois, il en repousse deux autres têtes, puis tu sais, ça se poursuit. Par contre, ils ont été capables de faire récemment, dans les dernières années, c'est vraiment d'identifier un peu mieux qui participe à ces réseaux-là. Et à ce moment-là, ils mettent la main sur davantage d'informations, puis là, ils vont chercher des têtes de réseau. C'est ça qui est très efficace jusqu'à présent. Mais il y en a toujours deux, trois qui sont plus fins, puis ils sortent créer d'autres réseaux de distribution, puis avant qu'ils apprennent, ça fait le tour pareil.
Mais je trouve ça particulier qu'on ne soit pas capable d'aller rechercher cette information-là. Puis, tu sais, pour toi, ça semble être facile à comprendre. Pour moi, c'était comme, attends un peu, là, je veux dire, ces informations-là sont sur des serveurs. Là, tu m'expliques qu'il y a de la redondance, oui. Puis ça se réécrit ailleurs. Mais on ne pourrait pas. Est-ce qu'un jour, dans nos plus grands rêves, on ne pourrait pas anéantir ce fameux dark web-là, infecter ce dark web-là pour que ça n'existe plus, puis qu'on puisse revenir du côté bon de la force?
Très bonne suggestion. Je seconde la motion, comme on dit. Mais Yannick, rappelle-toi un peu comment l'Internet a été fait. Il a été fait dans un contexte de guerre froide où, si jamais il y a eu une attaque par missile nucléaire, une partie de l'Amérique du Nord est détruite, bien, le réseau de communication va continuer à fonctionner parce qu'il y a toujours plusieurs chemins pour acheminer l'information. Puis à travers le temps, l'Internet, comme on la connaît moderne, elle a continué de se bâtir comme ça à travers la planète. Donc, il y a toujours un moyen de passer l'information d'une place ou d'une autre. Et si on dit, plutôt la différence aussi entre le dark web et l'Internet normal, c'est que l'Internet normal, elle est indexée. Il y a toujours des robots qui vont aller documenter tout ce qui est ouvert, publiquement disponible. Et quand tu fais une recherche Google, c'est comme ça qu'à l'instant, tu as l'information. Dans le dark web, ce n'est pas le cas. Il y en a qui disent « Oui, 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 on a travaillé sur un moteur de recherche propre au dark web. » Oui, mais à la façon que c'est structuré, il peut peut-être documenter au moment présent qu'il y a 150 ou 1500 sites web illicites de quelque chose. Mais le lendemain, la moitié peuvent disparaître, puis ils vont être réécrits, et dans la communauté de pas fin, vont se redistribuer la nouvelle adresse. Puis tu as vu l'adresse d'un site dans le dark web en protocole Onion, bien, c'est toujours un chiffre alphanumérique quand même d'une cinquantaine de caractères parfois, mais généralement, ça tourne autour de 20-30, et qui tu peux pas te souvenir. Fait que c'est là que l'indexation machine ne se fait pas aussi facilement que peut se faire sur l'Internet normal, puis il n'y aura pas de Google qui va être capable de venir à bout de ça, puisque les sites ne participent pas à commettre l'information, parce que tu peux empêcher un site web d'être documenté sur l'Internet normal.
Ouais.
Mais en même temps, puis tu sais aussi, Yannick, peut-être que la majorité de l'information qui est cachée, puis c'est de l'information qu'on se sert, toi puis moi, sur une base régulière, mais elle est derrière des moyens d'authentification pour s'y rendre. Exemple, si tu veux avoir accès à ton information financière chez Revenu Québec, bien, la majorité de l'information n'est pas sur le dark web, elle est chez Revenu Québec. Et ça, c'est une masse d'informations qui est là, légale, légitime, mais qui est prévenue que Google n'ira jamais en arrière du garde-barrière pour documenter et indexer cette information-là.
C'est complexe, c'est complexe. Puis la police, est-ce qu'elle est très alerte sur le dark web?
Bien, elle est alerte, je veux dire, ici au Canada, on a la GRC qui est avec son centre de coordination nationale à Ottawa, qui là est maintenant opérationnel et qui est capable de faire la coordination de différentes enquêtes et de coordonner, c'est-à-dire différentes enquêtes au niveau national et jusqu'au municipal. Récemment, si mon souvenir est bon, c'est l'opération Nova, ou bien je le confonds avec un autre, mais qui ont fait une mise en arrêt justement de réseau de pédopornographie et c'est des corps policiers municipaux qui ont été sollicités à travers la province, dont après ça la SQ, puis après ça la GRC, évidemment, et qu'ils ont arrêté des individus qui étaient en lien avec les opérations et la distribution de matériel ici en province et ailleurs dans le monde. Fait que de plus en plus, ils font des coups de filet comme ça à grande portée, et ça a son efficacité. C'est juste que, à un moment donné, il faut qu'ils aient cette connaissance-là. Fait que l'important, ce que je dis toujours, de rapporter les cyberincidents, bien, le policier, le patrouilleur, qui est le plus bas dénominateur commun, dans l'arbre policier, bien, s'il ne ramasse pas l'information puis il ne la commet pas en plus haute instance et qu'ailleurs au Canada, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe ici, bien, ça peut peut-être justement passer en dessous du radar parce que c'était justement un d'un grand réseau qui contribuait. C'est là que davantage le façon de faire se raffine. Chaque corps policier, davantage, ils ont des spécialistes en cyber et en même temps aussi, ils ont accès à des ressources, des professionnels comme moi ou bien des gens à l'interne qui vont se former. J'en ai formé des gens de la GRC dans le passé et qui, là, à ce moment-là, ils ont toute la connaissance voulue pour connaître les intrants, les tenants et les aboutissants. Et après ça, ça va plus vite pour mener les enquêtes et après de diriger les ressources aussi à bon escient. Mais tout ça est fait aussi dans un contexte maintenant que, quand je disais ça, que le patrouilleur, s'il ne ramasse pas l'information, c'est que entre traiter un crime conventionnel versus un crime technologique qui est appelé un soft crime, donc un crime à basse intensité, bien, ils vont s'adonner à aller traiter justement la femme qui est en train de se faire battre ou la personne qui a frappé un enfant au coin de la rue. Ça, c'est évident, ils vont intervenir là avant d'intervenir sur quelqu'un qui s'est fait voler son identité ou qui a perdu son compte Facebook.
Il y a eu plusieurs arrestations de grands vendeurs de drogue sur le dark web, puis il y avait des gens qui avaient mis des boutiques en ligne où tu pouvais acheter à peu près n'importe quoi, même des armes et tout ça, puis il y avait des policiers qui avaient réussi à retrouver sur le dark web une adresse, je pense que c'était Hotmail ou quelque chose du genre, là, de cet individu-là, puis ils ont réussi à communiquer, genre d'agent double là, qui a réussi à communiquer sur cette adresse-là avec l'individu, puis on lui a donné un rendez-vous dans un café Internet. On l'avait pogné de cette façon-là, mais ce gars-là était pratiquement milliardaire. Il s'était rendu milliardaire sur le dark web, puis si ça n'avait pas été de cette erreur-là, ce gars-là, il coulerait encore des jours très heureux dans un autre pays à vivre du malheur des autres. Là. Ça fait douce.
Est-ce que tu parles du trifluvien Alexandre Cazès?
Il y a Alexandre Cazès aussi qui s'est fait pogner, effectivement. Oui. Qui lui,
de la même façon, là, c'est pour ça que j'ai pensé à lui.
Oui. Puis, il y en avait un, c'était un des premiers, là, c'était un des pères fondateurs du dark web dans les vendeurs de drogue qui s'était fait prendre. Puis c'était une vaste opération mondiale pour retrouver ce gars-là. Il était extrêmement complexe à trouver. Puis finalement, il a juste fait une erreur. À un moment donné, il a répondu avec son adresse Hotmail, puis il s'était fait prendre par les policiers par la suite.
Bien, peu importe de qui on a en tête là, dans ces exemples-là, c'est souvent la façon que va commencer le début de la fin pour ces cybercriminels. Parce que comme je te expliquais tout à l'heure, les moyens techniques pour se cacher sont fantastiques. Là. Puis c'est là que les services de l'ordre, puis je ne te parle pas juste des services policiers, parce que souvent, il y a des services de renseignement étatiques, militaires, qui sont impliqués là-dedans. Parce que tu n'as pas juste, comme tu as décrit, tu n'as pas juste de la drogue qui se vend ou des patentes volées. Non, tu as du trafic d'humains, tu as du recel d'armes, tu as aussi des gun for hires, autrement dit, des mercenaires qui vont s'afficher là-dessus. Là. Puis là, après ça, tu sélectionnes puis tu dis « OK, on se rencontre telle place, telle heure. » Puis l'échange a lieu. Fait que tu sais, c'est là que tout le monde toutes les ressources possibles doivent être mises en contribution pour arrêter ces phénomènes qui ont attrait à tout l'ensemble de la société qui peut en profiter ou qui veulent en profiter. Fait que de cette façon-là, chaque fois qu'il arrive un criminel, puis que, un cybercriminel, puis que là, lui, comme tu dis, il fait une erreur, OK, ils peuvent se faire pogner. Et ceux et celles qui se font pogner, Yannick, c'est parce qu'ils sont dans des lieux où il peut y avoir arrestation ou extradition judiciaire. Mais quand tu prends des cybercriminels russes ou chinois, eux autres, là, la police ne peut pas aller chercher dans le pays, ou du moins dans des pays qui n'y a pas d'extradition judiciaire vers les pays qui sont dans ces traités-là. Alors, ils vont toujours continuer à faire le cybercrime, ça va bien aller. Puis même, souvent, on voit ça, Yannick, le FBI, qui est le ministère de la Justice américain, qui émet un poster, excusez, une affiche, avec les photos de tous ces bandits-là. Si vous les voyez, rapportez-les à la police. Bien, s'ils sont épais pour venir se promener ici, ils vont se faire pogner, ils savent. Mais ça donne une idée que le gouvernement est capable de les retracer puis de dire, regardez, on a au moins un visage sur qui est derrière ce crime-là. Donc, éventuellement, on peut peut-être l'avoir. Parce que c'est arrivé dans le passé, il y en a qui disent, bien, ils ne me reconnaîtront jamais. Ah! Je ne sais pas si tu as vu passer dernièrement, c'est vendredi, il me semble, l'article est sorti. Le ministère américain d'Intérieur, son service frontalier, bien, il travaille sur un projet d'avoir des caméras que lorsque tu vas traverser aux frontières terrestres, tu peux être capable d'inspecter à l'intérieur du véhicule les quatre personnes qui peuvent être dans place. Autrement dit, tu n'auras pas besoin de sortir du véhicule, les caméras vont aller checker à l'intérieur les quatre places où tu es assis pour être en mesure de faire de reconnaissance faciale et savoir si c'est une liste d'interdiction ou pas. Fait que c'est même, ça s'en va. Les aéroports, ils ont commencé à l'adopter. L'aéroport de Vancouver a mis ça en place avec les kiosques d'Air Canada. Puis ailleurs dans le monde, en République dominicaine, exemple, c'est déjà avec des caméras comme ça. En Honduras, c'est déjà comme ça. Soit la reconnaissance de la paume de la main, soit le visage. Puis j'étais en Europe, comme je te disais, puis en France, bien, c'est reconnaissance faciale quand tu rentres, quand tu sors, même en Israël. Il y a juste plus autres que ça prend plus de temps à mettre en place.
Oui, j'ai été à... Je pense que c'est Porto Rico que j'ai été. Puis quand j'ai pris l'avion, là, il y avait un système de reconnaissance faciale juste avant d'embarquer dans l'avion. Puis j'ai vu mon passeport qui apparaissait, mon passeport canadien qui apparaissait dans leur ordinateur alors que je ne leur avais pas donné mon passeport. Mais eux avaient accès à Porto Rico, à cette information-là. J'hallucinais. Ils savent des choses qu'ils ne sont pas supposés de savoir, les maudits Américains.
Ben n'importe quel pays, en fait, s'informe. Sur qui qui entre. Quand je suis allé à une année, je t'allais donner une conférence justement en Algérie. Là, il fallait payer un visa pour rentrer là. Puis parce que j'étais une invitation officielle du gouvernement, ça a pris 48 heures, sinon ça aurait pris des mois. Puis après ça, bien, on va dire, tout était serré puis coordonné à virgule près. Là. Non. Il y en a des pays qui sont très, très, très restrictifs et qui sont très, on va le dire, à cheval, assidus. Puis il y en a d'autres, bien, il y a des ententes, tu sais, c'est plus libre, comme aller se promener en Europe, bien, c'est facile parce qu'il y a des ententes de bonne réciprocité, mais si tu vas très longtemps en Europe, là tu as des visas que tu peux pas, faut que tu ailles chercher pour dire que tu restes là longtemps, que tu vas travailler, tu sais. Mais si tu vas là en tourisme, tu as des restrictions quand même à regarder, là, ça va de soi.
On passe la soirée en compagnie de Steve Waterhouse, qui est un spécialiste en cybersécurité. On va faire une courte pause et on revient tout de suite.
Marceau, le soir. Le Garage à Dan. Dan Caron a ressorti son jukebox. Histoire de vous pousser des bonnes vieilles tunes. Même du rock qu'on n'entend pas dans la programmation régulière. Le Garage à Dan, tous les vendredis, 18h.
Boulevard 101. Gâtez votre maman avec le croque-en-bouche. Offrez-lui l'entremets Douce Maman, composé d'une mousse yogourt citronnée, d'un confit fraise rhubarbe et d'un biscuit madeleine au miel. Dites « Je t'aime » avec le croque-en-bouche.
Envie d'un nouveau défi? Climatisation Paquette est présentement à la recherche d'un frigoriste. Joignez une entreprise en pleine croissance avec des opportunités d'avancement. Nous recherchons quelqu'un de motivé et de passionné. Qu'est-ce que vous attendez? Postulez dès maintenant sur climatisationpaquette.com.
Ta voiture est comme pas neuve, mais t'en veux une neuve? On peut reprendre ta comme neuve et même t'en trouver une neuve. Pour une voiture, c'est Charlebourg Toyota. Évalue ta comme neuve au comme-neuve.com.
Ce printemps chez Ashton, la Roast Beef Bacon Chipotle est à l'honneur. Avec son roast beef effiloché, son bacon émietté, sa sauce chipotle et ses oignons croustillants, elle est populaire comme jamais. La poutine Roast Beef Bacon Chipotle est disponible maintenant. Ashton, frais, vrai.
Rochette Excavation est présentement à la recherche d'un mécanicien et d'un chef mécanicien en machinerie lourde. Si tu possèdes une bonne force physique et que tu connais la mécanique sous le bout des doigts, ils aimeraient bien te rencontrer. Je te le dis, chez Rochette Excavation, on ne voit pas les journées passer. Rochette Excavation, c'est une entreprise familiale reconnue pour son excellence dans le domaine depuis 60 ans. Et si tu faisais partie de cette grande famille? Informations et détails au rochetteexcavation.com.
Vivace ou annuel, telle est la question. Fanny de ne pas être bien conseillée pour un bouquet de choix. Une floralie de couleurs. Faites-vous une fleur et passez chez Floralie Jouvence, votre centre jardin sympathique. À Québec et Lévis, ouvert tous les soirs en semaine jusqu'à 21h.
Pièces d'auto économiques. Pour des pièces neuves garanties et les meilleurs prix. En mai, les essuie-glaces Bosch et les disques de frein BrakeMax sont à 15% de rabais. Visitez notre nouveau méga-magasin au 600 rue Cambronne à Beauport, pièceéconomique.com.
Bonne fête aux organismes. Bonne fête aux bénévoles. Bonne fête, bonne fête, bonne fête à toute notre communauté. Parce que l'entraide implique tout le monde, le 80e anniversaire de Centraide, c'est aussi le vôtre.
Forte de 20 ans d'expérience, la Clinique de phlébologie de Québec est la référence pour traiter vos varices. Nos experts vous offrent une évaluation médicale complète et des traitements personnalisés, qu'il s'agisse de solutions chirurgicales, médicales ou esthétiques. Retrouvez la légèreté dans vos jambes. Visitez veines.ca.
Hey, salut, c'est Audrey. On est sur le dernier droit du podcast Sextape. On a fait la semaine passée le four tout partie 1. Vous le retrouvez sur toutes nos plateformes. Évidemment. Et là, ben, c'est le four tout partie 2. Donc, les sujets les plus abordés en consultation privée. Je suis toujours accompagnée de Mademoiselle Vic, conseillère en sexologie. On va parler de certaines pratiques sexuelles populaires en Amérique du Nord, de 10 conseils pour donner un boost à ta vie sexuelle, peut-être merdique, point d'interrogation. Je vous attends le lundi 5 mai, 19h.
Une présentation des boutiques érotiques au 7e ciel. Promo d'avril, cadeau gratuit à l'achat de 10, 25 ou 50 $. Deux adresses, 911 Charest-Ouest, marché Jean Talon, et au 7e ciel.com.
Chez Miville Climatisation, on est concessionnaire autorisé Mitsubishi Electric numéro 1 au Québec. On est même lauréat du prix Diamant témoignant de notre excellence. Grâce à nos thermopompes performantes chez Miville Climatisation, ça fait 57 ans qu'on garantit votre confort. Visitez miville.ca.
Encore une période spectaculaire pour Hyundai. Quel match pour le Tucson, fiable en défense, puissant en attaque. Plus de 9 Tucson sur 10 vendus au Canada au cours des 10 dernières années sont toujours sur la route aujourd'hui. Quel joueur complet! Et pendant l'événement Hyundai en série, financez tous les Tucson 2025 à partir de 3,99% à l'achat. Le jeu reprend, la passe est faite vers la gauche, mise en échec en territoire
adverse. Détails et conditions sur HyundaiCanada.com.
Les huîtres fraîches et les ailes de poulet fumées maison sont à seulement 1 $ tous les jeudis au Phoenix. Venez vous gâter et profitez de nos 4 différentes ambiances pour le reste de la soirée. Réservation phoenixduparvis.com.
Vos travaux printaniers commencent au Centre de vrac Saint-Jean. Terreau, paillis, gravier, pierres décoratives, tout ce dont vous avez besoin et toujours avec un service extra rapide. Livraison également disponible. On vous attend. Nous sommes maintenant ouverts. Centredevracsaintjean.ca.
Boulevard 102.1. De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi, vous allez le savoir en premier. Il se passe rien, vous allez le savoir aussi.
C'est simple. Ah!
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité, est avec nous ce soir. Merci, Steve, d'être là. Je sais que tu es très occupé, donc c'est un plaisir de t'avoir avec nous ce soir. C'est
toujours un plaisir de t'accompagner, Yannick.
Quel est le sujet à aborder avec toi? La fameuse commission Galant. Que penses-tu de cette fameuse commission Galant, de sa raison d'être? Qu'est-ce qu'on risque d'apprendre dans cette commission Galant-là?
Ben, au cours des deux dernières semaines, j'ai bien aimé l'écouter. Je suis un assidu auditeur et on apprend beaucoup depuis le début comment ça fonctionne le gouvernement, comment ça fonctionne l'attribution de contrats de certains ministères, etc. Fait que, ils ont mis la table de même pour expliquer là, la commission va parler de quoi envers qui. Et dans les prochaines semaines, Yannick, c'est là que le croustillant va commencer. Là, on va avoir des témoins vraiment un petit peu plus d'importance dans l'histoire et on va entendre les versions. Comme beaucoup, j'aimerais qu'à la fin de la commission, il y ait des fortes recommandations sur quoi changer et que ça ne recommence pas, ce genre de stratagème-là, et qu'on comprenne mieux que ça va s'améliorer. Mais comme on a eu quelques autres commissions avant, dans le passé, là, pour la dernière, la commission Charbonneau, y a-t-il quelque chose qui a changé de cette façon de faire-là? Bien, moi, je peux te dire, dans certains organismes, oui, ça a changé de façon de fonctionner. Fine. Parce qu'il y avait une conséquence grave si jamais ils ne suivaient pas la recette. Est-ce que dans cette commission-là, à la fin, le commissaire Galland va faire les mêmes recommandations, va avoir des pouvoirs de punition? Je ne crois pas, je n'ai pas lu ça en tout cas, mais le mandat, il reste très vague présentement, puis ça va être vraiment pour afficher ou du moins mettre en lumière ceux et celles qui ont peut-être abusé du système ou qui ont du moins pas fait le job qu'ils avaient dû, mais est-ce qu'on va entendre tout le monde comme c'est supposé? C'est là que j'ai hâte de voir.
Tu sais, il y a des apparences, des fois, de conflits d'intérêts qui sont épouvantables. Une entreprise qui participe avec le gouvernement à faire un appel d'offres et par la suite, de l'autre côté, remporte cet appel d'offres-là. Tu sais, moi, si on m'avait dit, Steve, là, 10 ans, que ça existait, j'aurais dit, mais ça n'a pas de bon sens. On n'est pas, dans un pays corrompu, là. Une entreprise ne peut pas faire un appel d'offres, puis par la suite, l'appel d'offres est tellement ciblé que de l'autre côté, ils arrivent, puis ils savent exactement quoi mettre dans leur soumission pour remporter cet appel d'offres-là. Je veux dire, ça arrive dans un pays de cul, Steve. OK, c'est correct, c'est un pays de cul. Mais que ça arrive au Québec, des fois, tu te poses certaines questions, là. Tu sais, c'est peut-être pas tout le temps des gens mal intentionnés, mais il n'en demeure pas moins que moralement, ça n'a comme pas de bon sens.
On s'entend. Et qui, justement, voit à ce que cette morale soit respectée? Tu sais, l'éthique, en quelque part, comment est-ce qu'on... est-ce que l'éthique est réellement respectée ou bien c'est toujours un aspect monnayable ou malléable? Je ne devrais pas dire monnayable parce que c'est d'autres implications criminelles. Mais, tu sais, à quelque part, y a-t-il quelqu'un? C'est qui les garde-fous là-dedans? Là? Puis c'est ça que les dernières commissions ont essayé d'établir. Tant qu'il n'y a pas de la contre-vérification, puis que le VGQ, on a eu une idée, c'est un peu le rapport du VGQ le dernier au mois de février que ça a mis le feu aux poudres. Sans le vérificateur, est-ce qu'on entend parler qu'il y a des dérapes? Puis je te dirais un exemple facile, aux États-Unis, c'est la même affaire. Le bureau du vérificateur général, lui aussi, en expose des affaires. Même affaire avec Ottawa. Le dernier rapport qui est sorti en décembre 2023, si mon souvenir est bon, faisait état comment est-ce que les deux systèmes les plus vieux au Canada, c'est le système de la pension de la vieillesse puis le système de retraite, qui ont 60 et 40 ans chaque. Si tu n'as pas cette vérification-là neutre, mandatée par la Chambre, tu ne sauras jamais que ces affaires-là sont encore en fonction, tu sais. Fait que le VGQ, il avait toute raison de le faire comme ça. Oui, mais je dis aussi qu'il n'a pas été assez profond. Par contre, il ne pouvait pas tout dire non plus. Fait qu'à huis clos, il peut peut-être tout raconter pour que le juteux du détail ressorte. Ça, c'est nécessaire pour que les parlementaires le sachent, qu'ils prennent des décisions éclairées. Mais il reste que cette commission-là, j'espère juste que ça va aller au fond des choses.
Tu sais, je regardais... une citation de Jacques Bourgault, qui est professeur à l'École nationale d'administration publique. Lui, il mentionnait, pendant la commission Galland, qu'un ministre a 1000 manières de savoir que les choses commencent à mal aller. Il doit rapporter cela à son patron, le premier ministre étant François Legault. Le premier ministre doit faire tout ce qu'il peut pour essayer de savoir, essayer et corriger et essayer de prévenir et, s'il faut, même imposer une décision. Visiblement, dans l'histoire de sa clique, ça n'a jamais été fait. C'est une dilapidation des fonds publics épouvantable qui s'est passée.
Que j'espère que la commission va mettre en lumière tous ces manquements-là, parce que, tu sais, Yannick, comme on disait tantôt, là, on a une situation, là, vraiment quelque chose de triste, là, mais on n'a pas tous les éléments, on n'a pas toutes les variables qui sont impliquées. Fait que c'est pour ça que j'ai hâte de que ça, les gens sous serment, il y en a qui vont peut-être mentir à travers de ça, je ne sais pas. Mais si les gens sont honnêtes et qu'ils viennent présenter les choses telles qu'elles ont été, on risque d'en apprendre des choses. Ça va éclairer davantage ce que tu apportes.
Le scandale, la SAC, au départ, en 2015, estimait que pour ce qui est de sa transformation technologique, ça allait coûter 200 millions de dollars, Steve, sur 10 ans. Ça, c'était un mois avant d'entamer son processus d'appel d'offres. Et selon la vérificatrice générale du Québec, le projet va coûter minimalement 1,1 milliard de dollars d'ici 2027 si les dernières phases prévues au plan sont mises en œuvre dans le temps recommandé. L'argent fuit. Puis quand tu étais au gouvernement, est-ce que tu voyais ça? Est-ce que tu étais capable de faire quelque chose? C'est quoi la job d'un sous-ministre? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Contrairement à ce que le ministre peut faire, exemple.
Bien, premièrement, c'est d'être au courant de ce qui se passe dans ton organisation. L'histoire de Saclay, j'ai été nullement impliqué de près ou de loin. Je veux dire, la seule façon de loin, j'ai été impliqué, c'est que je parlais avec certaines personnes pour qu'on parle de cybersécurité. Ça n'avait même pas rapport au projet. Fait que là-dessus, vous ne me verrez pas en commission, je pense. Mais ceci dit, il faut que tu t'informes que c'est quoi les projets qui sont sous ta responsabilité. C'est quoi le fameux date butoir, puis après ça, avec lequel budget tu le réalises. Puis là, oui, si tu n'es pas capable de déterminer, tu vas rencontrer ton objectif, bien, il faut que tu le rapportes, puis garde, ça va me prendre plus de temps pour telle raison, ça va me prendre plus d'argent pour telle raison, etc. Il faut que ça s'explique. Mais il faut que ça s'explique avant, après ça. Il faut que tu l'aies travaillé. Tu ne peux pas juste dire, oh, parce que les gens sont paresseux, il nous faut plus de temps ou plus d'argent. Ça ne se dit pas, ça, on le sait. Mais il reste toujours bien, fondamentalement, que là, bien, lorsque les réunions, les fameuses réunions, mettons, que ce soit hebdomadaire ou mensuel, bien là, faut que tu donnes l'état de la situation correctement. Puis bien des fois, tu sais, c'est ça, peu importe lequel ministère, des fois, j'analysais ça là, à tête reposée, que c'est rare, mais j'avais la perception justement que, oups, il y en a peut-être trop en même temps qui se faisait. Et là, on n'était pas capable de subvenir à tous les besoins. Souvent, moi, j'ai demandé qu'il faudrait peut-être en mettre quelques-uns sur pause pour qu'on se concentre à l'essentiel, puis après ça, on avance. Mais tu sais, ça, je te parlais tantôt, tu as une quantité finie de gens qui peuvent faire le travail. Tu as des fois là, puis dans tes ressources humaines, il faut que tu calcules que tu en as qui sont, malgré, mettons, tu as 100 personnes pour faire le travail. Est-ce que tu en as qui sont en congé de maladie pour X, Y, Z? Y en a-tu qui sont en phase de retraite? Est-ce qu'il y en a qui sont enceintes et qui sont en congé de maternité ou de paternité? Etc., etc. Fait que, finalement, tu as une équipe de 50 personnes. Fait que, faut que tu comprends, tu es cherché 50 autres personnes. Et là, le conseil du trésor te dit non, tu ne peux plus t'embaucher. Il faut que l'établissement il est plein. Bon, des 100, je viens de t'expliquer, il m'en reste 50. Il faut bien que je travaille 50 de plus. Fait que, il y a des paquets d'affaires de variables de même qu'il faut que tu négocies à chaque fois. Puis là, ben, si tu ne peux pas aller avoir des ressources humaines supplémentaires en embauche, tu vas les chercher en contrat, à l'extérieur. Et là, on tombe avec ce qu'on se disait au début. Bien là, tu amènes quelqu'un de l'extérieur, il faut que tu l'amènes dans cette culture, tu l'inities au projet, puis après ça, tu lui dis, bien, regarde, tu vas nous aider à faire telle tâche, etc. Fait que c'est là, quand on dit que ça ralentit et que ça prend plus de temps, ça en fait partie de ces raisons-là. De mon observation, je ne peux pas dire que c'est toujours la même, mais c'est là que ça vient à ce moment-là, demandant avec le temps.
Dernière question pour toi, Steve. Je veux revenir au projet d'identité numérique. Bon, on apprenait ce matin dans les journaux de Québecor que Yann Ouellet, c'est un fraudeur qui a travaillé sur le dossier pendant quelques temps. Il était le seul responsable de la recette, selon ce qu'on peut lire dans l'article de Nicolas Lachance. Et quand il s'est poussé pour aller faire un peu de prison aux États-Unis, d'ailleurs, il est encore en prison, ben, le gouvernement a essayé de réparer les pots cassés pendant quelques semaines, quelques mois, puis visiblement sont incapables de retrouver la recette de cette dite poutine. Donc, on a dû recommencer à zéro. Comment on s'assure que l'information confidentielle ne sorte pas du gouvernement? On est rendu qu'on embauche des criminels, puis ça semble pas déranger grand monde. Comment on s'assure que, je sais pas moi, mon permis de conduire se ramasse pas sur le dark web avec mes informations de qui est ma mère, qui est mon père, c'est quoi mon signe astrologique, c'est quoi le nom de ma blonde, le nom de mon chien, mes mots de passe?
Premièrement, une personne n'a pas complètement accès à toute l'information. Et quand tu as une personne de l'extérieur, ben c'est rare que tous les accès vont lui être donnés intégralement pour être complète de faire tout. Là. Fait que les accès sont compartimentalisés. Et après ça, ben, tu as des gens du gouvernement qui travaillent avec cet individu-là. Là. Veux dire, comme je te dis, il n'y a pas libre cours n'importe qui, n'importe quand. Fait que moi, j'ai confiance que encore aujourd'hui, tu as des projets qui roulent présentement et que la préoccupation première, bien, c'est de protéger l'information parce que tous les fonctionnaires qui travaillent avec l'informatique au gouvernement le savent, qui sont le point de départ, pour ne pas dire la finalité, que l'information personnelle émanant du gouvernement, bien, tu n'as pas plus autre autorité que celle-là. Fait que c'est un risque qui est conscientisé et qu'il y a à ce moment-là répartition de ce risque Et après ça, il y a des éléments de contrôle en place qui vont faire en sorte qu'il n'y a pas un Desjardins qui va arriver au gouvernement, genre.
Je comprends très bien. Steve Waterhouse pour des entrepreneurs privés qui aimeraient avoir des conférences de Steve Waterhouse dans leur entreprise. Peuvent communiquer avec toi de quelle façon? Parce que je sais que tu es en conférence ce soir. Là. Peuvent communiquer avec toi de quelle façon?
Sur mon site internet, infosecsw.ca, toujours disponible. Sinon, via le Twitter, water_Steve, ou bien par la page Facebook, ce sont tous des moyens avec lesquels les gens peuvent entrer en contact avec moi. Puis, non, c'est assez facile. Puis, ça me fait plaisir d'accompagner les gens. C'est ça qui est plaisant pour qu'on puisse, à ce moment-là, souvent adresser des sujets qui touchent une entreprise, qui veulent sensibiliser davantage les gens, ou bien, encore une fois, de parler de sujets qui sont des fois un petit peu plus... et éduquer les gens avec des sujets qui sont un petit peu plus rares, qu'on peut se donner le temps de le faire des fois une heure ou 90 minutes. Là, ça vaut à peine, parce que lorsqu'on est intime ensemble dans une salle, là, qu'on, c'est plus à ce moment-là intéressant d'en faire l'exploration que de poser une question en ligne, poser des questions des fois au téléphone. Bien, quand on est un en avant de l'autre, c'est bien plus agréable.
Steve Waterhouse, c'est toujours un plaisir. Je te souhaite de passer une agréable soirée, de même qu'aux auditeurs. Puis, ben toi, bonne soirée. Puis pour les auditeurs, bon, on se reparle demain à la même heure. Salut tout le monde. Merci, Steve.
Salut, Annick.
Bye-bye.
Marceau, le soir.
Planifiez votre consultation sans frais en détatouage pour enfin dire bye-bye tatou chez Viva et obtenez une carte cadeau de 125 $ du jamais vu. Cliniqueviva.com.
Chez Climatisation Paquette, en plus d'avoir un service exceptionnel et un délai d'intervention de 24 à 48 heures, nous vendons d'excellentes thermopompes de marque Mover, Gree et Stelpro. Pour un service après-vente solide et des produits de qualité exceptionnelle, c'est Climatisation Paquette. Visitez climatisationpaquette.com.
Lévis Mazda vous offre l'excellence et la qualité de véhicules fabriqués au Japon. Avec le CX-5 GX en location 48 mois à 99 $ par semaine. Avec un léger comptant. Le Mazda 3 GX en location 48 mois à 85 $ par semaine avec un léger comptant. On vous livre ça rapidement grâce à notre large inventaire. Et en plus, on vous donne le meilleur prix pour votre échange de véhicule. Passez-nous voir au 5095 rue Louis H. Lafontaine. Chez Lévis Mazda, vous allez voir, on s'occupe de vous.
Pour la fête des mères, tout le monde va m'appeler pour des idées cadeaux. La mère de Julie, un forfait détente. La mère de mon chum, un cours de cuisine. En bout de ligne, je recommande un endroit, la forfaiterie. Rendez-vous en boutique aux Galeries de la Capitale et à Laurier, Québec.
Tu es débrouillard, ouvert d'esprit et fais preuve d'initiative? Hébergement Rive-Nord te veut dans son équipe. Depuis 2015, Hébergement Rive-Nord accueille des résidents présentant une déficience intellectuelle et ou un trouble du spectre de l'autisme. Notre équipe dynamique est composée d'éducateurs spécialisés, d'intervenants en délinquance et plus. Salaire compétitif à partir de 22,75 $, horaires flexibles, assurance collective et soins dentaires. Chez Hébergement Rive-Nord, on prend soin des autres et des nôtres. Postule sur l'onglet carrière au hébergementrivenord.com.
Le jeudi 8 mai, c'est le grand McDo. Tout achat chez McDo vient en aide aux enfants malades et à leurs familles.
Fait que si je commande un Big Mac, j'aide les enfants.
Oui, un Big Mac, c'est bon.
Un chausson?
C'est bon.
Un McFlurry?
Bon aussi.
Une petite frite?
Bon.
Quart de livre?
Bon.
McWrap?
Bon.
McPoulet?
Non.
Oh.
Ben non, un McPoulet, c'est bon.
Ah!
Le jeudi 8 mai, c'est bon de donner lors du Grand McDon. Joignez-vous à nous.
C'est bon!
Une partie de la vente de nourriture et de boissons permettra de soutenir les filiales de l'OMRM et d'autres organismes de bienfaisance pour enfants du Canada.
On le sait que vous vous ennuyez déjà de nos belles voix. Ce sera pas long. On revient.
Vous avez des problèmes de fondation, d'humidité, de fissures ou d'odeur dans votre sous-sol? Vous avez un problème avec votre vide sanitaire ou votre pompe de puisard?
Pour tous les problèmes de sous-sol, Système Sous-sol Québec est la solution avec une garantie de 25 ans. Pour tout ce qui est sous-sol, sous-sol.ca.
Le samedi 10 mai, à l'église Sainte-Thérèse, il y aura un grand rassemblement d'adoration. Joignez-vous à la communauté pour vivre cette expérience de foi enrichissante. Remettre ses tracas plus grand que soi vous apportera paix et sérénité. Au rendez-vous, le conférencier M. Jacques Gauthier. La première conférence, sous le thème de l'École de Sainte-Thérèse de Lisieux, sera à 10h et la deuxième, sous le thème des 10 chemins pour renouveler sa vie spirituelle, sera à 15h. Détails au petitethérèse.org.
L'été approche. Pensez à votre saison de vélo et venez chez Vélo de la Côte pour le bon vélo et les meilleurs conseils. Procurez-vous le tant attendu nouveau vélo de descente Quake de Marin, aussi beau que performant. Financement disponible. Vélodacôte.com.
Maman! Maman! J'ai faim! Qu'est-ce qu'on
mange pour souper?
Ça grandit vite, un enfant. Cotisez à un régime enregistré d'épargne-études de Desjardins dès maintenant.
Le 8 mai, on célèbre le leader des colocs, notre Dédé Fortin, qui nous a quittés il y a 25 ans déjà.
La musique unique des Colocs et leurs textes engagés ont marqué les années 90. Plusieurs de leurs chansons, comme « La rue principale » et « Tassez-vous de là », sont devenues des hymnes québécois. Dédé, dans toute son authenticité, a incarné l'espoir et la désillusion du référendum de 1995.
On n'est pas obligé de rester des Québécois avec du foin dans les oreilles et la barbe dans...
Sa mort tragique en 2000 a marqué au fer rouge le Québec. Avec cette émission, nous rendons hommage à son œuvre. Dédé reste un pilier de la chanson québécoise et sa poésie brute et universelle continue de nous inspirer. Ne manquez pas, je me souviens, Dédé Fortin le 8 mai, 19h, à Boulevard 102.1.
Je me souviens, Dédé Fortin, présenté par Multiconfort.